Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel, Alain Roumestan pour des infos clés en main, mais trop souvent oubliées par les médias. Aujourd'hui, la dissidence et l'opposition cubaine, alors que Raúl Castro, événement lourd de sens, va passer la main le 19 avril prochain. À Cuba, depuis la révolution de 1959, le régime instauré par les frères Castro, Raúl et Fidel, a toujours connu une opposition qu'il a combattue et muselée. N'oublions pas que dans le premier gouvernement de Fidel Castro, la majorité des ministres est réformiste et non pas révolutionnaire. Ils seront d'ailleurs très vite démissionnés. Dès la première année de la Révolution, près d'un million de Cubains ont gagné l'exil américain, des avocats, des médecins, des commerçants, des étudiants. Dans les instances dirigeantes de la Havane, mois après mois, ceux qui ne sont pas d'accord avec le nouveau cours radical, l'alliance exclusive avec les communistes, quittent l'administration centrale. Exemple, le commandant en chef de l'armée de l'air, Pedro Luis Díaz Lance, quitte son poste. Hubert Matos, compagnero de Fidel Castro, mais démocrate, se pose la question « Est-ce que Fidel a eu l'occasion de réfléchir à l'influence des communistes au gouvernement et dans l'armée ?» Il démissionne de son poste de gouverneur militaire. Arrêté, il connaîtra la prison pour trahison jusqu'en 1979. Faustino Pérez, chrétien et un des dirigeants influents du mouvement castriste, montre clairement son opposition à la suite de la nationalisation des écoles catholiques et à l'expulsion des prêtres. Le démocrate Manuel Rey, responsable de la résistance civique sous le régime précédent, s'oppose à ses anciens alliés de la lutte contre la dictature. L'Église catholique réussit à rassembler 1 million de personnes pour le respect de la liberté, et on va même dénombrer dans l'île plus de 200 groupes rebelles en province. En décembre 1960, Armando Valladares, poète, ancien policier, accusé d'avoir préparé des attentats, est incarcéré. Il sera libéré en octobre 1982, après 22 ans de prison sur médiation du président français François Mitterrand, après l'intervention de son conseiller spécial Régis Debré. En 1971, l'intellectuel Padilla, accusé d'agir contre la sécurité de l'État, sera arrêté, enfermé pendant près de 2 mois dans les locaux de la dite sécurité de l'État. Il fera son autocritique publique, accusant sa famille, ses amis, devant l'Union des écrivains et artistes de Cuba. Il sera remis en liberté après une mobilisation internationale d'intellectuels. Plus près de nous, en mars 1999, les dirigeants du groupe de travail de la dissidence interne sont jugés à La Havane pour attentat contre la sécurité de l'État. Résultat, 3 à 5 ans de prison. En mars 2003, 75 opposants cubains sont condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir collaboré à un plan du Bureau des intérêts des États-Unis. Le poète Raúl Rivero en fait partie. Raúl Rivero, ancien secrétaire du poète officiel proche du régime Nicolas Guillem, avait signé la lettre des 10 intellectuels demandant simplement la fin des emprisonnements politiques et la démocratie. En juin 2003, les pays de l'Union européenne invitent les opposants cubains dans leurs ambassades à l'occasion de leur fête nationale. Cuba gèle alors ses relations avec les ambassades, le centre culturel d'Espagne est fermé, Fidel Castro en personne est au milieu des manifestants devant l'ambassade espagnole pour protester contre l'Europe qui s'immisce dans les affaires internes de l'île et donne des leçons. Une pétition qui doit établir la liberté d'action de Cuba et son indépendance concernant ses choix fondamentaux, est signé par 8 millions de Cubains en juin 2003. Le socialisme est déclaré irrévocable et l'Assemblée nationale vote pour inclure ce caractère irrévocable du socialisme dans les textes constitutionnels. En octobre 2003, l'Internationale socialiste, sous l'impulsion des socialistes européens, dénonce l'embargo américain sur Cuba, mais demande fermement aux autorités cubaines la libération des détenus et des réformes démocratiques d'ampleur. Les autorités cubaines répondent à leurs détracteurs en mettant en avant une déclaration du chanteur Pablo Milanés qui s'exprime ainsi « À Cuba, il y a des erreurs et nous avons le droit de les dénoncer ». En 2003 toujours, le Comité pour la défense des droits de l'homme et pour la réconciliation nationale d'Elizardo Sanchez se fait lui aussi une place dans l'opposition. L'Allemagne, en février 2004, condamnant une fois encore les arrestations des 75 opposants de mars 2003, décide, bien qu'étant invité, de ne pas se rendre au Salon du Livre de la Havane. L'UNESCO remet le même mois son prix mondial de la liberté de la presse au poète Rivero. Il sera remis en liberté et il créera une agence de presse indépendante, Cuba Press. Pour montrer qu'ils ne sont pas en opposition systématique et seulement demandeurs de liberté, les opposants Gutiérrez Menoyo, ancien compañero de Fidel Castro, et Elizardo Sanchez se déclarent contre les mesures prises par le président Bush pour la transition démocratique, dénonçant les prétentions américaines. L'économiste Marta Beatriz Roque, fondatrice en 1994 de l'Institut cubain d'économistes indépendants, arrêtée en mars 2003, condamnée à 20 ans d'internement, est alors libérée. Début 2005, une revue numérique, consensocubano.org, voit le jour avec l'accord du gouvernement. Elle est portée par des opposants modérés. Des contacts officiels ont lieu la même année avec l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal et la Suède. L'Union européenne demande à Fidel Castro d'améliorer les conditions de vie des détenus politiques. Le Parlement européen offre son prix Sakharov aux dames en blanc. Groupe d'épouses, de sœurs ou de mères, des opposants arrêtés en mars 2003 lors du printemps noir, défilant toutes de blanc vêtues sur la 5e avenue de la Havane. Yolanda Huerga est l'une des fondatrices du mouvement. Le gouvernement cubain s'indigne, mais les contacts ne sont pas rompus avec l'Europe. La Commission cubaine pour les droits humains et la réconciliation nationale, non reconnue par les autorités, publie une liste de près de 300 prisonniers dans l'île. Amnesty International demande la libération de 71 prisonniers de conscience. Un forum est organisé à La Havane avec 150 représentants de groupes d'opposants, sans interdiction du pouvoir. On pourrait donc imaginer une évolution significative. Comme toujours dans l'histoire cubaine, on assiste à la politique d'un pas en avant et d'un pas en arrière. En 2013, Ofelia Paya, épouse du dissident cubain mondialement connu Osvaldo Paya, mort en juillet 2012 dans un accident de la route, dénonce les autorités cubaines qu'elle juge responsables. Elle demande une enquête internationale pour déterminer les causes exactes du décès de son mari. Ophélia a épousé Osvaldo en 1986, mariage catholique dans le Cuba communiste. Mariage d'amour d'Ophélia Azevedo et d'Osvaldo Paya, ils auront 3 enfants. Quelques années auparavant, Osvaldo a refusé de quitter l'île lors de l'exode de centaines de Cubains par le port de Mariel. Sa vie est une série de refus face au régime, refus de rejoindre, comme tous les élèves, les jeunesses communistes, refus de transporter des prisonniers politiques pendant son service militaire, exclusion de l'université de La Havane pour activisme chrétien. Osvaldo et Ophélia partagent le même idéal, la même lutte. En 1988, Osvaldo lance le mouvement chrétien de libération, le MCL. 10 ans plus tard, lorsqu'il se lance dans le projet Varela, du nom de ce prêtre ayant lutté pour l'indépendance de Cuba, elle est à ses côtés. Ils veulent l'un comme l'autre la liberté politique, la liberté d'entreprise, l'amnistie pour les prisonniers politiques. Ils demandent un référendum pour une réforme constitutionnelle. Et comme dans le Cuba de Fidel Castro, la Constitution octroie aux citoyens la possibilité de porter devant l'Assemblée nationale un projet cosigné par 10 000 électeurs, il présente une pétition signée par 25 000 personnes et donc l'Assemblée nationale est obligée de recevoir cette pétition initiée par les Paya. Mais le pouvoir accuse les initiateurs d'avoir distribué aux signataires de l'argent et des visas pour les États-Unis. Une contre-pétition est organisée et signée par 8 millions de Cubains qui rappelle le caractère socialiste intangible de la révolution castriste. La requête des Paya est donc rejetée. Osvaldo reçoit en 2002 du Parlement européen le prix Sakharov de la liberté de pensée. Il devient l'un des dissidents cubains les plus respectés, ce qui le met à l'abri des arrestations qui touchent régulièrement journalistes, écrivains et défenseurs des droits. En 2012, le 22 juillet, Osvaldo, qui a 60 ans, circule à bord d'un véhicule, accompagné du jeune Angel Caromero, vice-secrétaire du mouvement de jeunesse du Partido Popular Espagnol, d'Aaron Modig, président suédois des Jeunesses Chrétiennes Démocrates, et d'Harold Cepero, responsable du secteur jeunesse du MCL. Osvaldo et Harold périront dans un accident près de Bayamo, vitesse excessive pour les autorités cubaines, qui condamnent le conducteur à 4 ans de prison pour homicide involontaire, « accident provoqué », déclare le conducteur, qui s'exprime en 2013 dans le Washington Post et le journal espagnol El Mundo. Il affirme qu'une voiture avec plaque d'immatriculation du gouvernement les a percutés. Le seul opposant crédible au pouvoir aurait donc été liquidé. Benoît XVI parlera de pertes irréparables. La femme du dissident a parcouru l'Europe, Genève, où elle intervient à l'ONU, au Parlement européen, à Strasbourg, en France, où elle a été reçue au Press Club à Paris. Elle demande partout une enquête internationale transparente. La commission d'enquête sur les crimes extrajudiciaires des Nations Unies devrait mener l'investigation et les gouvernements européens sont appelés à intervenir. Ophélia Paya estime que son mari a été victime d'un attentat imputé à la police politique. Lors du procès de Caromero à Cuba, où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, ne l'oublions pas, les enfants Paya n'ont pas pu pénétrer dans la salle d'audience. L'avocat du prévenu affirme que dans le rapport des experts, il n'est nulle part fait état d'un excès de vitesse. Les rapports d'autopsie n'ont jamais été produits. Avec émotion, Ophélia parle du cadavre de son époux, qu'elle n'a pas pu embrasser, car on lui a interdit de le toucher. Elle accuse les témoins, 3 paysans censés être sur le lieu de l'accident, au travail un dimanche après-midi torride, le médecin légiste présent sur place, un SMS indiquant sur l'instant que la voiture vient d'être percutée, un accident similaire qui s'était produit le 2 juin, un mois et demi avant le drame, l'impossibilité flagrante sur la carretera centrale, l'autoroute centrale de Cuba, de dépasser les 70 km/h vu l'état de la route. Un maigre arbuste présent, sans aucune dégradation, alors que la voiture était réputée s'être écrasée contre un arbre après un dérapage. La volonté d'Osvaldo avec 2 passagers étrangers de ne risquer aucun contrôle routier pour excès de vitesse, avant l'arrivée à Santiago où devait avoir lieu une réunion militante du MCL. L'hôpital où a été amené Osvaldo, isolé par les militaires. Osvaldo, leader conséquent de l'opposition, était continuellement suivi. Il s'était élevé contre le passage de témoins politiques de Fidel à Raúl Castro. Une simple apparence de changement. Il militait pour une alternative concrète de changement politique. Ophelia, qui a quitté il y a peu Cuba avec toute sa famille pour la Floride, se sent maintenant en sécurité, même si le bras de la dictature peut frapper partout. Son fils a été persécuté par les autorités, voiture suivie, sa belle-mère convoquée à la sécurité d'État, des coups de fil nocturnes non harcelés, où est ta fille, des menaces de mort nombreuses. Le MCL continue malgré tout son combat avec le même projet Varela, une plateforme toute simple pour que le peuple conquiert simplement ses droits. Il n'y a pas de droit à violer à Cuba puisque les droits fondamentaux n'existent pas. Osvaldo répétait toujours « Pourquoi les Cubains n'ont pas les droits humains fondamentaux ?»« Cuba n'est pas une société de moindre valeur », confie Ophelia. L'obsession d'Osvaldo, c'était la consultation populaire. Des partis existent à Cuba, mais ils ne représentent pas une réalité forte et visible. Le peuple cubain doit être consulté par référendum sur l'avenir de la nation. C'est ce qu'Ophelia figure, qui fait penser à l'Ophélie de Rimbaud, avec sa douceur effacée, son calme, sa fragilité, mais sa force intérieure, fait passer dans ses interventions européennes au Partido Popular Espagnol ou au ministère des Affaires étrangères français. Ce qui est arrivé à mon mari et à Harold Cepero ne doit pas se répéter avec un autre activiste politique dans l'île. Combien d'autres doivent mourir opposants politiques dans des circonstances suspectes pour que le monde décide d'enquêter sur les actions du gouvernement cubain contre ses propres citoyens? En septembre 2013, j'avais donc rencontré la veuve d'Osvaldo Paya, décédée en juillet 2012, dans un accident de la route. Elle dénonçait les autorités cubaines et demandait une enquête pour déterminer les causes exactes de la mort de son mari. 2013. 2018, 5 ans ont passé, et pourtant peu de changements malgré toutes les annonces lors des rencontres Raúl Castro et Barack Obama en mars 2016. La preuve, en juillet 2017, Eduardo Cardé, médecin de 47 ans, coordinateur du même MCL, Mouvement chrétien de libération, est en prison. Condamné à 3 ans d'enfermement pour attentat à l'autorité, tous les appels possibles ont été faits. Ses soutiens n'ont plus le droit de faire appel en ce 5 juillet 2017. Il doit être muté dans une ferme de travail forcé. En prison, pour un délit de droit commun, il est pris en charge par les officiels de la sécurité de l'État. Qu'a-t-il fait pour être affublé de l'appellation « haute dangerosité » ? Étant un des vice-présidents de l'ODCA, une organisation démocrate chrétienne, qui regroupe 23 partis chrétiens démocrates, il a été arrêté par les agents de la sécurité de l'État cubain le 30 novembre 2016 à son domicile à Velasco, province d'Holguín, dans l'est de l'île. Le 28 novembre, dans une interview diffusée par une radio madrilène, il avait affirmé que Fidel Castro était contesté, que le peuple cubain le rejetait et que le deuil national à la suite de la mort du leader cubain avait été imposé aux Cubains. Liberté d'expression qui, dans une démocratie ordinaire, ne porterait à aucune conséquence. Son procès s'est ouvert le 3 mars 2017 et il est condamné le 20 mars sur réquisition du procureur à 36 mois de prison ferme pour agression d'un représentant de l'État au moment de son arrestation, pour attentat contre les forces de l'ordre public, scandale et désordre public. Sa condamnation lui est signifiée à la prison de Holguín. Sa belle-mère, Marlenis Leiva, et sa femme, Yemaris Vecino, parlent de parodie de procès et d'une condamnation acquise d'avance. Aucune réaction officielle ni du gouvernement, du ministre concerné, ni des médias d'État. Dans des affaires similaires, le régime préfère traiter les dissidents de groupes de mercenaires manipulés par des intérêts étrangers, ce qui est sans aucun doute la critique faite à l'encontre de Cardet, qui s'était rendu aux États-Unis à Miami pour une rencontre avec des militants de son mouvement MCL. Aux dernières nouvelles, Eduardo Cardet, en ce mois de février 2018, est toujours en prison. Zoé Valdés, l'écrivaine cubaine qui vit en France, a eu de ses nouvelles. « Ils ont essayé de le tuer, dit-elle. » Coup violent dans la tête et 2 coups avec une arme pinçante sur son ventre. Cette émission sur la dissidence et l'opposition cubaine peut être réécoutée sur www.radiograndciel.fr, rubrique Histoire d'en savoir plus.